Et tout de suite, c'est la fabrique médiatique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni mercredi en assemblée plénière, a décidé de retirer son mandat au président de Radio France, Mathieu Gallet, condamné en première instance le 15 janvier dernier à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 euros pour délit de favoritisme lors du mandat qu'il exerçait à l'Institut national de l'audiovisuel. Monsieur Gallet a fait appel du jugement, mais la décision du CSA prendra de toute façon effet le 1er mars. Cette révocation, inédite dans l'histoire, suscite de forts remous en interne, dont il nous semble important de donner les enjeux à vous qui nous écoutez. Car au-delà du cas de M. Gallet et de l'exemplarité des chefs d'entreprise publique, dont nous ne discuterons pas ici, c'est l'avenir de la radio qui est en jeu à un moment où les pouvoirs ont annoncé une vaste réforme de tout l'audiovisuel public. Alors que se prépare-t-il au gouvernement? Faut-il s'inquiéter pour l'avenir de la radio publique française? C'est la question qu'on avait envie de poser ce matin. Et nous avons deux invités pour répondre à cette question. Jean-Paul Quenson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué syndical Sud et représentant du personnel au conseil d'administration de Radio France. Et André Gattolin est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, monsieur. Vous êtes sénateur LREM des Hauts-de-Seine, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Vous êtes l'auteur en 2015, avec Jean-Pierre Leleu, du rapport « Pour un nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public, trois étapes pour aboutir à la création de France Média en 2020 ». Alors, première question à propos de ce communiqué du CSA. Le CSA a estimé dans son communiqué que pour assurer, je le cite, « dans de bonnes conditions la gestion d'une société détenue à 100% par l'État, il importe que les relations d'échange et de dialogue entre les représentants de l'État et le PDG de la société soient denses, confiante et permanente dans un contexte de réforme majeure de l'audiovisuel public annoncé par le pouvoir exécutif. Que pensez-vous de cette formulation, Jean-Paul Quenson?
Ce qui nous préoccupe en premier lieu, c'est effectivement le contexte et l'horizon. Puisqu'on entend depuis maintenant de nombreuses semaines et plusieurs mois que on a prêté au président de la République des propos assez durs, la honte de la République concernant l'audiovisuel public. On a beaucoup procédé par amalgame. Il faut savoir que on a lu également le rapport de Monsieur Gattolin. On parle de l'audiovisuel d'un modèle à bout de souffle. Et c'est vrai que dans cette maison, quand on entend parler de modèle à bout de souffle, alors on se sent tout de suite un petit peu écorné. Or, vous savez que dans cette maison, il y a un sentiment d'appartenance extrêmement fort, parce qu'il y a probablement une singularité qui fait que dans le paysage audiovisuel, tout ce que nous produisons, nous le diffusons. Enfin, notre production.
Ça, c'est très très important. C'est un modèle unique.
Ça, c'est un modèle unique. Voilà.
D'intégration, on n'externalise pas. Nous produisons tout en intérieur.
Absolument. C'est pour ça que il y a une façon un peu de jeter le bébé avec l'eau du bain qui nous pose problème. On a entendu des députés ou des sénateurs s'exprimer récemment, nous parlant des finances fragiles de Radio France, nous parlant d'un certain nombre de problèmes. Or, les finances fragiles, nous sommes exposés très souvent aux humeurs ou alors aux stratégies parfois un petit peu hasardeuse de l'État, qui signe des contrats d'objectifs. Nous avons donc une visibilité à 4-5 ans et qui régulièrement, année après année, procède à des coups de rabot. C'est ça qui fragilise aujourd'hui l'entreprise. Or, sur l'état de nos finances, mais comme sur la question de nos indicateurs, je crois que Radio France peut se targuer de résultats exceptionnels. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Et nous ne sommes pas accrochés uniquement aux résultats d'audience, parce que je crois qu'il est important aussi de parler d'indicateurs qualitatifs. Je crois que voilà, toute cette remise en cause, à la fois ouverte, parfois agressive, et en creux, du modèle Radio France est quelque chose qui nous paraît injuste, et c'est pour ça que nous pensons qu'un état des lieux partagé sur la base du réel est absolument essentiel au stade où nous nous parlons.
André Gattolin.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, sachant qu'il ne faut pas généraliser le propos qui a été attribué au président de la République, qui s'adressait à une certaine société audiovisuelle. Et
il a quand même dit l'audiovisuel public.
Je ne suis incapable de le dire, puisqu'il l'aurait dit.
Voilà, il l'aurait dit.
Je pense qu'il a démenti, en tous les cas, il n'a pas confirmé les propos. Il y a un souci, je dirais aujourd'hui, dans l'organisation de l'audiovisuel public. Moi, je pense que le fait que le CSA nomme des personnes et est supposé les contrôler, on n'est pas dans la séparation des pouvoirs, comme je suis personnellement hostile à ce que des parlementaires siègent dans les conseils d'administration, parce qu'on ne peut pas faire des missions de contrôle, se retrouver à un moment dans la codécision qui peut être prise avec les pouvoirs publics dans le choix des dirigeants, et en même temps siéger au sein. C'est un avis personnel, c'est pas l'avis du gouvernement, mais c'est ma lecture de l'équilibre des pouvoirs pouvoirs et de la séparation des pouvoirs.
Comprenez-vous l'inquiétude exprimée là par Jean-Paul Quesson et des personnels de Radio France ?
Sur le plan des programmes, des contenus, il faut bien le dire, Radio France, dans l'ensemble, est extrêmement performant au regard de ce qu'on attend. C'est-à-dire que on n'est plus, alors c'est vrai qu'on nous sort toujours le triptyque, divertir, informer, cultiver. Éduquer, oui. Voilà. C'est très bien, c'est un triptyque qui a été créé d'ailleurs en 1928 par la BBC, à l'époque où il n'y avait pas de concurrence. Le divertissement, c'est bien qu'on ait, mais il faut qu'il soit spécifique sur le service public. Là-dessus, j'ai rien à reprocher, moi personnellement, en tant qu'auditeur à Radio France. Je trouve que le travail qui est fait aussi bien sur France Inter, sur Culture ou...
Où nous sommes, France Culture, grand
éditeur. Non, mais il faut prendre cette l'ensemble. Chaîne, hein, sur Radio France. On est obligé. La difficulté qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que... Il faut considérer les missions du service public au regard de l'évolution de l'offre. Il y a des choses qui sont faites par d'autres et le but, c'est pas de dupliquer ce qui est fait par d'autres. C'est pas le cas de Radio France, ça c'est très clair.
Alors qu'est-ce qui ne va pas à Radio France ? On parle de Radio France, on ne va pas mélanger avec la télé. Hein. Vraiment, non, on parle de la radio publique.
À Radio France,
quels sont les dysfonctionnements, André Gattolin ?
Je pense qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la gestion des travaux. Ça ne relève pas des salariés, mais je pense que le fait qu'on soit arrivé au doublement des travaux, qu'on ait choisi de faire les travaux en gardant les équipes sur place, ce qui fait des travaux qui durent 10 ans, qui doublent de coûts, tout ça a été fait avec des aléas. Le fait qu'on ait décidé de créer France Info TV au déboté, donc d'utiliser une partie des ressources de France Info qui n'était pas budgétée, parce qu'au départ, ce qui a été dit à la représentation publique, c'est que c'était de la pure mise en commun, mutualisation, que ça ne coûterait pas un centime. On savait bien que ça n'allait pas coûter un centime. L'argent qui était pris, notamment à Radio France, pour faire ça, c'était de l'argent qui devait aussi être sur autre chose, regard du com.
Donc et c'est un problème avant tout, pardon de vous interrompre, économique selon vous.
Oui,
alors que Jean-Paul Quesson parle de modèle.
Et de relations de l'État qui est l'actionnaire à 100% avec les gens qui dirigent. C'est-à-dire, il faut reconnaître de la part de l'État historiquement une absence de visibilité. On parlait des contrats d'objectifs et de moyens, on a un audiovisuel public qui est fragmenté en plusieurs sociétés, les contrats d'objectifs et de moyens, les présidences entre les dirigeants sont complètement en décalage dans le temps. Très compliqué de dire on a une vision globale où chacun fait sa part et en même temps avoir des différences. Et je suis d'accord avec vous, l'État doit prendre des engagements dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut un plan de programmation sur 5 ans au minimum des ressources qui sont allouées par l'État pour l'audiovisuel public.
André Gattolin, c'est vrai que les deux phrases qu'on entend le plus au sein de Radio France depuis quelques jours, c'est d'abord les audiences sont bonnes, Radio France est en mouvement, les finances ont été ramenées à l'équilibre. Pourquoi tout casser dans la mesure où, si je redis le tract de le communiqué du SNJ, le syndicat des national des journalistes, l'idée c'est que c'est le pire moment, et c'est ça la deuxième phrase qu'on entend le plus. Que pouvez-vous répondre à cela?
Je crois que effectivement ça n'arrange personne. Je ne vais pas parler au nom du gouvernement parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que ça n'arrange personne le départ de Mathieu Gallet et le fait que Radio France entre de ce fait dans une zone d'incertitude, parce qu'on ne sait pas encore la procédure exactement comment elle va se passer, n'est pas une bonne nouvelle. En même temps, je le dis clairement, si la crise autour de Mathieu Gallet avait perduré, qu'il soit resté en poste, ça aurait affecté la personne morale de Radio France, qui n'est pas concernée en plus par cette affaire. Ça montre bien qu'on a très mal pensé l'audiovisuel, le système de révocation, qui est l'article de loi 47.4 de la loi de 86. Il était conçu un peu comme l'article 50 du traité constitutionnel européen, en imaginant qu'aucun pays ne sortirait jamais. Donc il faut quand même qu'on ait des procédures plus fluides et qui assurent une vraie continuité de la direction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Question économique, question de gouvernance, question de modèle, question production éditoriale. Jean-Paul Quesson.
Je trouve très rassurant ce que dit M. Gattolin, qui est un parlementaire sérieux et travailleur. J'entends que les griefs et que les récriminations que vous verbalisez, c'est moins à l'endroit de Radio France, de ses salariés et de la qualité de sa production et de la qualité de ses contenus que de problèmes qui sont liés à des dysfonctionnements graves du fait des errements de l'État successifs. Parce que les grandes décisions dont vous parler, notamment que ce soit des questions financières ou sur le chantier de réhabilitation. Ce sont des décisions qui ont été prises en conseil d'administration avec le point de vue majoritaire de l'État, et à chaque fois, c'est effectivement la problématique du politique qui a probablement une vision trop éloignée des réalités du terrain. Et je pense que si on devait s'engager vers la voie de modification. Nous ne sommes pas favorables à des modifications de structure. L'idée d'une holding, tout ce qui va nous rapprocher de la télévision, va, de notre point de vue, avoir tendance à alourdir les processus, à nous faire perdre en souplesse et en agilité, et c'est de ça dont Radio France a besoin. Mais je crois que le préalable à toute réflexion, c'est de regarder aussi le regard de l'auditeur. Prétendons être la radio de l'offre. C'est-à-dire d'offrir la plus grande des diversités, c'est d'être encore en pointe sur la création, sur l'innovation. Il y a des études qualitatives, vous les connaissez probablement, tout à fait récemment, qui traduisent la vision que l'auditeur et même le citoyen a de cette maison. Vous me pardonnerez quelques chiffres très brièvement. 73% des auditeurs voient la différence entre le public et le privé. Pour France Culture, c'est 96%. Évidemment. 85% des auditeurs de Radio France sont satisfaits. Pour France Culture, ça vous fera plaisir, c'est 87%. Utile à la population, 76%. Auditeurs, 86%. Enfin voilà, cette question d'exemplarité, c'est quelque chose aujourd'hui que Radio France incarne. Alors la question, effectivement, pourquoi tenter de toucher, d'abîmer, et je dirais plus grave encore, de discréditer un modèle. Et j'en termine juste, dire que Radio France est exemplaire, non, ça serait inexact. Parce que il y a aujourd'hui dans cette maison, à certains égards, notamment en matière de gestion de ressources humaines, quand le médiateur est arrivé en 2015 au moment de la grève, il a noté, par exemple, que la précarité était érigée en système, et ça c'est quelque chose que nous condamnons. Néanmoins, Radio France a ses grandes forces, c'est ses contenus, c'est son ambition, c'est que tous les jours les auditeurs soient de plus en plus nombreux et qu'ils soient de plus en plus satisfaits. Par contre, c'est vrai qu'en matière de gestion et de ressources humaines, il y a des progrès à faire, ça je peux vous le concéder bien volontiers.
André Gattolin.
Moi je pense que l'idée de la holding, hein, dans un rapport que j'ai pas commis tout seul avec Jean-Pierre Leleu, donc bon, à l'époque j'étais écologiste, lui républicain, vous imaginez, c'était un travail de compromis entre nous, c'est de dire le mode de financement traditionnel de l'audiovisuel va évoluer. La publicité, faut pas y croire. Moi, je suis pas d'accord, je le dis clairement, aujourd'hui, sur ce que je vois sur l'Internet de Radio France. Quand je vois la présence des bandeaux publicitaires, parfois, qui clashent complètement avec les contenus qui sont présentés sur Culture ou France Musique, je dis, c'est peut-être pas là qu'il faut chercher des ressources en dehors de la redevance audiovisuelle.
Mais pardon, vous êtes bien d'accord que dans le contrat d'objectifs et de moyens, il nous a été demandé une maîtrise des charges et un développement des ressources propres. Radio France répond à ce pouvoir d'injonction.
Non, j'ai terminé. J'ai bien conscience. J'ai dit tout ce qui n'allait pas aussi du côté de l'État et aussi de la construction des coms et cette absence de vision globale. Il y a des choses, par exemple, le financement public, une grande partie, 3,8 milliards, 3,9 milliards pour l'audiovisuel, c'est la redevance audiovisuelle. Comment on la répartit? On la
qu'on appelle à tort redevance télé, qui, paye aussi la radio publique.
Je soulève régulièrement le fait qu'elle est basée sur la possession d'un téléviseur en état de marche, alors que si on disait la possession d'un moyen de captation radiophonique en état de marche, déjà, on aurait un spectre beaucoup plus large, et si on avait un système d'études qualitatives régulier, parce qu'il se trouve que j'ai fait pour cette maison, il y a une vingtaine d'années, des calimates sur la perception des programmes, et ils étaient très, très bonne perception. Ça servirait aussi de critère de répartition entre les différentes organisations et sociétés de production
juste
nationale.
Un mot, Jean-Paul Quesson, sur cette question de la redevance, augmentation ou élargissement de l'assiette, c'est une question qui revient de façon récurrente.
Alors, on est bien d'accord qu'il y a un vrai problème par rapport au financement et par rapport à sa pérennité, et que probablement que l'élargissement de l'assiette fait partie des pistes. Je vous ai entendu récemment parler d'une baisse, ça serait un geste symbolique fort de baisser.
Si on élargit.
Oui, mais si on élargit, le problème, c'est que si on élargit, on peut demain avoir un gouvernement disant, par rapport à des questions de justice sociale ou de caution familiale ou autre, de dire, allez, on rétablit les exonérations, et si on a baissé la redevance, c'est une mécanique qui ne s'inversera pas, donc c'est extrêmement dangereux.
Il y a déjà 4,2 millions de foyers qui sont exonérés.
Bien sûr, 500 millions à 600 millions d'exonérations.
Et certains payent des abonnements à la télévision privée très chère.
Mais nous sommes en Europe en 6e position rapport au niveau de la redevance. Nous sommes très très bas, très très loin. Oui. Donc vraiment, la piste de l'assiette, c'est quelque chose, mais baisser la redevance, ça serait un signal vraiment pas bon à envoyer à l'ensemble de la population.
Faut-il s'inquiéter de l'avenir de la radio publique? C'est la question que nous posons dans la fabrique médiatique à nos deux invités. André Gattolin, qui est sénateur et qui est l'auteur en 2015, avec Jean-Pierre Leleu, d'un rapport sur le nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public. Et Jean-Paul Quenson, qui est délégué syndical sud de la Maison Ronde et élu représentant au conseil d'administration de cette même maison. Nous discutons de réforme, nous discutons dans un contexte général de réforme de l'audiovisuel public de cette radio qui est Radio France, de cette grande maison de 4500 personnes qui est Radio France. J'aimerais vous demander à l'un comme à l'autre ce que vous pensez de ce qui est en train d'être proposé à la fois au gouvernement, proposé également par des parlementaires dont vous faites partie, André Gattolin. Hier avait lieu une réunion au ministère avec le ministère de la Culture, donc avec la ministre elle-même, d'où était évidemment absent Mathieu Gallet, mais des discussions qui sont en cours depuis très longtemps, auxquelles participent donc hier les 5 autres concernés, qui ont trait à des thématiques comme le public jeune, l'international, l'offre de proximité, le numérique, les fonctions, supports et techniques. Des projets de coopération sont déjà en cours entre France 3 et France Bleu, entre France Culture et France 5, une offre numérique commune. Est-ce que vous pensez que cela va dans le bon sens, ces rapprochements, ces synergies, ces réflexions sur des coopérations, mais des coopération ciblée, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous maintenez-vous qu'il faut repenser intégralement un projet et maintenir la question de cette holding qui serait un grand rassemblement, comme on a dit il y a quelques temps maintenant, d'une BBC à la française?
Non, André Gattolin. Justement, c'est pas une BBC à la française. Ça, c'est la première chose qu'avait dit la ministre de la Culture de l'époque, Flore Pellerin, pour discréditer notre proposition de holding. Le principe de la holding, c'était d'avoir une vision et une organisation commune sur les mutualisations. Un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est la mutation numérique. En gros, il y a deux façons de considérer l'audiovisuel. Soit on dit on ne change rien et l'évolution, et c'est surtout en télévision, mais on voit les grands opérateurs internationaux arriver et dévaster l'ensemble de la télévision. Soit on dit on engage cette mutation pour garder un service public qui reste performant.
Pour la radio, c'est déjà en cours, hein, encore une fois.
Oui, pour la radio.
Largement avancé.
Non, mais
restons sur la radio.
Excusez-moi, c'est en début. L'évolution numérique, la façon dont se transforment les usages aujourd'hui sur toutes les évolutions de comportement, ça va extrêmement vite. Il faut avoir ça en fond. Et puis, l'autre chose, moi je dis de façon en préalable à toute réforme, moi c'est ce que je préconise, c'est se demander quels sont les besoins et les missions de service public et comment elles sont remplies. Je posais la question de la redevance parce qu'il y a aujourd'hui, chez les Français, un problème de consentement à payer la redevance, qui sont liés à la télévision, essentiellement parce que le degré de satisfaction, quand vous avez 9 heures de jeu télé sur France 2 et France 3
non,
par jour...
Non, revenez pas à la télé.
Non, mais excusez-moi, c'est du global.
De la radio.
Moi, je veux bien parler de la radio, mais je ne suis pas là pour
réformer. Ah, mais c'est très différent, le modèle...
Non,
Jean-Paul Quenson a commencé
aujourd'hui,
à dire.
Le projet,
c'est un modèle unique.
Non, parce que le consentement à la redevance, ça ne passe pas par le dénigrement systématique de l'audiovisuel public et du fait...
C'est ce que André Gattolin ne fait pas ça. Mais j'aimerais...
J'ai pas entendu le gouvernement dire Radio France, c'est scandaleux, ça ne fonctionne pas.
Jean-Paul Quenson, j'aimerais juste vous entendre sur ce projet de coopération, sur ce qui est discuté en ce moment même au ministère.
Cette maison, il n'y a pas de corporatisme, d'archaïsme, ni de pesanteur. Cette maison, elle a toujours su se transformer, évoluer, muter. Et c'est vrai que sur la distribution numérique de nos contenus aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment en cours. Ouais. Il y a vraiment une activité qui est très dense là-dessus. Mais je pense qu'il y a des pistes aujourd'hui de rapprochement brutaux qui ne sont pas du tout de bon augure pour la maison. On pense notamment à France Bleu et à France 3. Il y a là des manières très différentes de travailler, de fonctionner avec des rythmes différents, avec des temporalités différentes. Et n'oublions pas ce que disait Orson Welles. Eh bien, à la radio, l'écran est plus large qu'au cinéma. Donc, il faut pas l'oublier.
Juste une dernière question, André Gattolin. Concernant encore l'avenir de la maison, le CSA doit trouver un remplaçant à Mathieu Gallet. Or, la loi sur l'audiovisuel public qui doit passer d'ici la fin de l'année prévoit que ce ne soit plus nécessairement le CSA qui nomme le président. Alors, on fait quoi? On fait passer une petite loi, comme on dit, sur le mode de gouvernance plus vite ?
Écoutez, moi j'ai fait une proposition de loi en décembre dernier, sur laquelle j'ai travaillé, qui est un peu issue d'ailleurs du rapport que j'avais produit il y a 3 ans avec Jean-Pierre Leleu, qui est une petite loi qui dit ce sont au conseil d'administration de désigner le président, et ces conseils d'administration doivent être proposés par le Premier ministre, mais avec une validation des 3/5 des assemblées, justement pour pas qu'il y ait de tropisme politique, qui est un consensus. Et je veux que les représentants de l'État soient moins nombreux dans les conseils d'administration, parce que ce qu'on a noté au sein de l'audiovisuel public, c'est que 4 ou 5 représentants d'entités différentes, ça donne pas de la cohérence.
Jean-Paul Gelson, en une seconde.
Des commissions sont en cours, des travaux sont en cours. Écoutez les salariés de ces maisons, écoutez les salariés de Radio France, nous avons beaucoup de choses à vous proposer.
Jean-Paul Quenson et André Gattola, vous allez sans doute continuer dehors. Merci beaucoup d'être venus déjà dans ce débat. Merci, les 8h sur France Culture.